Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Retour vers le futur. Nous avons 30 ans de moins, 40 ans de moins.
75.
Il est 21h30. Les brigades du Tigre viennent de se terminer. Arsène Lupin sur Antenne 2. Claude Jean-Philippe n'est pas encore là. Bernard Pivot arrive, face caméra, fait un petit speech, dit bonsoir. Généralement, il disait c'est le 352e numéro d'apostrophe. Et il présentait ses invités, comme je vous présente ce soir, Geoffroy Lejeune, Gilles-William Golnadel, Jérôme Béglé, Olivier Dartigol.
C'était le vendredi soir.
Et c'était le vendredi soir, à 21h30. À 21h30.
Est-ce que c'est votre meilleur démarrage d'émission de toute votre vie ou pas?
C'est ce que je viens de faire là?
Ouais.
Non, parce que j'aurais préféré qu'ils souhaitent ce monde.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que pour notre génération, c'est un modèle de journalisme, c'est un modèle de simplicité, de proximité, et il avait ce mot formidable, populaire. Populaire. Et c'est à la fois de la culture, mais il est du côté du téléspectateur. Chaque fois qu'il interroge Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Georges Simenon, il pense qu'à une chose, le téléspectateur.
Il ne jargonnait pas.
Non. Et il se fichait du milieu littéraire qu'il envoyait. Voilà, il parlait pour son voisin du Beaujolais quand d'autres parlent pour leur voisin de bureau. Donc, c'est ça qui est... C'est ça, Pivot. Alors, voyons la... Nécro de Viviane Hervé, parce que, alors c'est aussi une époque dont on va parler ce soir, c'est-à-dire que c'est Chancel, c'est Alain Decaux, c'est tous ces grands passeurs qui ont fait la télévision des années 70-80, donc c'est un mélange de très grande culture, mais en même temps vraiment de simplicité, c'est ça qui est formidable, c'est pas des...
Il a poussé jusqu'aux années 90 à Bouillon de Culture.
Bouillon de Culture, c'était formidable aussi. Et il posait, il écoutait son interlocuteur et il pouvait rebondir.
Il avait un énorme
sur ce que venait de dire.
Il n'interrompait jamais ses invités.
Mais bien sûr qu'il interrompait.
Ça, c'est un truc. Jamais.
Il
jamais. Jamais.
Mais parce qu'en fait, personne ne le dit. Parce que ça serait, comment dire, c'est faire la part belle aux journalistes et personne ne le dit comme ça. Mais il n'y a pas de bons interviewés. Il n'y a que des bons intervieweurs. El Kabache, Chancel, Pivot, c'est eux qui faisaient que l'autre. Parce que quand vous interviewez Marguerite Duras, t'as intérêt d'être à niveau. Parce qu'autrement, elle t'envoie, elle te donne rien. Et les gens avec lui donnaient, on va voir des extraits, François Mitterrand, il donne. Pourquoi? Parce qu'il a Pivot. En fait, c'est le récepteur, c'est l'émetteur qui fait le récepteur. C'est l'émetteur qui fait le récepteur. Voyons la nécro
de Bernard Pivot sont descendus.
Mais on va pouvoir en parler ensemble, oui, et ça va être formidable. On va pas parler que de ça, d'ailleurs, il y a une autre actualité aujourd'hui. Mais voyons le sujet de Viviane Hervé.
Bonsoir à tous, voici donc la 724e et dernière émission d'Apostrophe.
Ce 22 juin 1990, Bernard Pivot met fin à l'émission littéraire la plus regardée en France à l'époque. Avec une moyenne de 3 à 5 millions de téléspectateurs par numéro, Apostrophe s'est imposée comme le rendez-vous incontournable des écrivains. La liste des auteurs interviewés par le journaliste est impressionnante, comme ici avec Alexandre Solzhenitsyn.
Avez-vous toujours au fond du cœur le désir violent de rentrer sur la terre russe?
C'est peu dire le désir. Ce désir ne me quitte pas un instant.
Et vous avez le colonialisme et le capitalisme.
En réunissant les personnalités les plus éclectiques sur son plateau, Bernard Pivot provoque souvent l'événement.
Il y a probablement des années à traduire les autres.
Il a l'art de pousser les plus réservés à la confidence.
Ce que j'aime dans la littérature, c'est ce qu'elle dit en dehors des mots, à côté des mots.
Y compris le silence.
Oui, le silence, ça s'entend, bien sûr.
On peut aussi écrire sans souffrir, sans trop souffrir.
Cette passion pour les mots, Bernard Pivot va l'acquérir très tôt, dans son enfance.
Pendant la guerre, j'avais entre 5 et 10 ans, j'avais deux livres à ma disposition, on n'avait pas de livres. Seul livre que j'ai lu pendant 3 ans, c'est Le Petit Larousse.
Passionné de foot, Bernard Pivot va mettre un certain temps avant de trouver sa voie.
Il a fallu 2 ans pour réussir le bac, donc j'étais un élève oui, presque médiocre. Quoi. Et dès que je suis arrivé à Paris au centre de formation des journalistes, je suis devenu un très très bon étudiant.
Exigeant, il lit jusqu'à 12 heures par jour pour préparer ses émissions.
Les belettes fauves.
En 1985, Bernard Pivot lance les championnats de France d'orthographe. Jusqu'à 3 millions de téléspectateurs de tous âges, stylo en main, tenteront de déjouer les pièges de sa dictée. L'apothéose en 1992 se déroule à New York, à Londres. Avec Bouillon de culture, une émission qu'il anime pendant 10 ans, de 1991 à 2001, Bernard Pivot souhaite traiter toute l'actualité culturelle, du cinéma au théâtre, en passant par la musique ou la gastronomie. Son questionnaire à la fin de chaque émission est resté célèbre, notamment quand il demande à ses invités leur juron préféré.
Espèce de petite fiente.
Fanculo.
Connard.
Oui.
Pas mal.
Ou j'en foutre.
La barbe.
Au cours de sa carrière télévisuelle, Bernard Pivot va remporter 3 sets d'or en son nom et 4 pour ses émissions. Membre de l'Académie Goncourt à partir de 2004, il en deviendra le président en 2014. Une consécration pour ce défenseur indéfectible de la langue française.
On vient de voir dans ce sujet, ils sont morts. Ce sera la une du Paris Match que vous avez changé. Parce que...
On est à l'heure du déjeuner, et ouais. on devait être disponible dans toute la France mercredi, on ne le sera pas forcément dans toute la France. Mais je pense que Bernard Pivot valait bien une de match le jour de sa mort, évidemment. Donc on a tout changé.
Il nous a fait tant lire, très joli titre, le roi lire était-il surnommé. Vous voulez dire un mot peut-être les uns les autres sur Bernard Pivot ou vous souhaitez que nous voyons des documents?
Vraiment, en vous écoutant et en regardant, la nostalgie est toujours ce qu'elle est pour moi. C'est-à-dire que réellement, Apostrophe a été la seule émission littéraire que j'ai regardée, que j'aurais regardée. J'en loupe pas une. Je suis incapable de vous dire ce que Pivot politiquement pensait.
Il était un peu à gauche. Il était sans doute social-démocrate.
D'accord, mais enfin bon, je l'aurais difficilement situé sur le planisphère politique, ça c'est clair. Et j'ai la nostalgie aussi de ce service public, justement, qui était neutre parce qu'il était capable d'inviter tout le monde et n'importe qui. Voilà, et il ne posait pas, donc oui, j'ai
ça la clé, vous êtes parfaitement.
Je suis dans la nostalgie de M. Pivot.
C'est oui. Ça la clé. En fait, tous les extraits qu'on va voir racontent une époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun est dans son couloir, voilà. Et les uns et les autres, il y a des personnes qu'on reçoit jamais. Alors que lui recevait des infréquentables. Maurice Bardèche est venu sur le plateau. Marc-Edouard Nab est venu sur son plateau.
Gabriel Matzneff
est venu sur son plateau. Donc c'était une autre époque.
L'engueulade merveilleuse entre justement d'Ormesson et Jean Daniel.
Oui. Ouais.
Vous vous souvenez de celle-là aussi.
C'était... Et puis il a contribué à faire découvrir des auteurs. Les nouveaux philosophes, Bernard-Henri Lévy et ses amis, ont fait leur première télé autour d'un livre chez Bernard Pivot. Et un écrivain qui s'appelait Dai Sijie, dont on se souvient très peu, qui était un réfugié chinois qui avait fait un livre chez Gallimard, qui a été un énorme succès, le titre m'échappe à l'instant. Pivot l'a reçu, ce type était inconnu, il a dit « Achetez le livre, faites-moi confiance, c'est un grand livre ». Il en a vendu 50 000 la semaine qui a suivi.
Philippe Labro est intervenu, il y a eu beaucoup de réactions évidemment aujourd'hui, je vais vous proposer quelques-unes. Philippe Labro qui parlait de Bernard Pivot.
Ce que j'aime et ce que j'admire chez lui, c'est sa capacité incroyable de faire aimer les livres, de les faire connaître en toute indépendance, en toute honnêteté, en toute probité, sans jamais subir une influence. Aucun attaché de presse ne pouvait l'appeler, rien. Quand vous arriviez devant l'émission, c'est à peine si vous disiez bonjour pour être sûr qu'il ne se passerait rien d'autre que le moment où l'émission aurait lieu. Mais oublions ça, ce qui compte, madame, c'est qu'il a joué un rôle. On ne mesure pas le rôle qu'il a joué dans la vie culturelle française. En 40 ans, il a fait découvrir des écrivains, il a fait aimer tous les livres, et il a fait vivre la culture. Ça a été notre plus grand ministre de la culture, notre plus grand prof de lettres. Moi, je n'ai qu'une admiration affectueuse pour un homme qui aura marqué son temps.
Marqué son temps et réussi des interviews formidables. Les images que vous allez voir maintenant, c'est François Mitterrand. François Mitterrand est à la fin de sa vie. Je crois même que c'est la dernière fois que François Mitterrand fera une interview à la télévision.
Il est encore président, je crois.
Oui, exactement. Et il est particulièrement fatigué. Et c'est là, vous voyez, le talent de l'intervieweur. C'est-à-dire que Mitterrand est quand même pas facile, forcément, à interroger. Mais il va donner. Il va donner parce que en face de lui, il y a une générosité, il y a une jubilation, il y a une gourmandise, il y a une curiosité. C'est en 1995, bouillon de culture.
Quand vous parlez de votre enfance, vous apparaissez, il y a deux enfants, vous. Il y a un adolescent qui est timide, qui est rêveur, qui aime à dialoguer avec la nature, qui écrit des poèmes devant les rivières et les fleuves. Et puis, rentré chez lui, dans son grenier, tout d'un coup, il se transforme en tribun, il harangue l'histoire et il veut transformer l'histoire. Où est l'unité de ce jeune homme ?
Elle est entière. Elle est entière. J'avais un côté, en effet, très, très timide. Je vais peut-être vous étonner en vous disant que je le suis encore. Donc j'ai une certaine difficulté à aborder une conversation. Mais entrer dans l'intimité d'un cercle, avec même des gens qui me plaisent ou qui me... ou j'admire, ou que je... Mais une certaine difficulté. Bon, ensuite, si je passais mon temps à être renfermé sur moi-même, ou à faire des poèmes aux fleuves et aux rivières que je rencontrais, je devais avoir besoin, sans doute, de me rattraper sur autre chose. Et j'étais à... malade d'histoire, j'aimais l'histoire. J'aimais faire revivre toute l'histoire passée, surtout de la France, d'ailleurs, c'est celle-là que je connaissais un petit peu, je ne connaissais pas les autres. Et je trouve ça au contraire très complémentaire. Il y a les balades le long des ruisseaux et des rivières, et puis il y a la harangue au peuple imaginaire. Oui. C'était des tilleuls qui étaient devant moi.
Mais on voit très bien que vous êtes très fidèle à votre enfance, d'une fidélité assez.
C'était une belle enfance.
Et vous voyez, il revient à sa question, donc il a écouté, il est très attentif, et puis il revient sur le chemin où il voulait l'emmener. Et il va proposer, alors c'est pas facile, il va proposer à François Mitterrand le questionnaire de Proust. Et François Mitterrand, je pense qu'il est un peu réticent, mais bon, il arrive malgré tout à l'imposer. Regardez cette séquence.
Juste quelques questions.
Moi, oui.
Voilà, votre mot préféré, monsieur le Président ?
Le mot préféré, j'ai... Chacun de ceux que vous interpellez ainsi doit hésiter beaucoup. Moi, je vous dirais la vie.
Mm-hmm.
La vie éclairée. Mm-hmm. Donc, ça ajouterait la lumière, et ça ajouterait l'amour, et ça ajouterait paix, la vie.
Et il n'y a pas de mots que vous n'aimez pas ?
Si, il y en a que j'aime pas, mais...
Par exemple ?
Non, je ne dirais pas l'exemple. Je vais venir ordurer.
les bruits que vous aimez ?
J'avoue que le bruit du vent. Je vous ai dit que j'avais des tilleuls devant moi, mais à Jarnac, c'était des prairies de peupliers. Et la musique du vent dans les peupliers, vous savez, c'est quelque chose. Bon, je vous réponds ça, peut-être que je dois vous répondre quelque chose. Mais en tout cas, je le pense.
Alors, ce questionnaire de Proust, qui n'est pas exactement le questionnaire de Proust,
non,
d'ailleurs, qui
est un questionnaire.
Voilà. Donc là, il y a répondu un jour, et c'était Jean d'Ormesson, je crois, pour la dernière, qui lui posait à lui les questions.
Votre mot préféré ?
C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, avec une apostrophe au milieu.
Le mot que vous détestez ?
Un mauvais sentiment décrit par un mauvais mot, concupiscence.
Le son, le bruit que vous aimez ?
C'est le son très discret des pages que je tourne en lisant un livre, ou le son aussi discret du stylo sur la feuille.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ?
Moi, j'aimerais bien être réincarné dans un cep de la Romanée Conti.
Je vais boire un coup à votre santé.
Allez-y, buvez un coup.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori ?
Oh putain ! Toujours trois fois.
Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ?
Michel Bouquet dans L'avare de Molière.
Enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ?
Alors, Mr. Pagibot, how do you do ?
pas terrible. I am sorry, my God, but I don't speak English. Ah, mais c'est vrai que vous ne parlez pas anglais. Il parle français, évidemment, Dieu aussi. Ah, c'est vrai que vous ne parlez pas anglais. Eh bien, vous avez toute l'éternité devant vous pour apprendre l'anglais. Et je vais vous donner un très bon professeur. S'il vous plaît, allez me chercher Sir William. Shakespeare, of course.
Il y avait eu un tweet d'ailleurs de Bernard Pivot le 22 janvier 2016 et il avait écrit « L'habitude des radios de m'appeler à la mort d'un écrivain est si grande que le jour où je mourrai, elles m'appelleront. » Et ce qui est vraiment effectivement très, très fin.
Le Bernard du tweet.
Oui, exactement.
C'est très bien.
Exactement, il en avait parlé d'ailleurs, il avait dit que c'était un exercice
c'était
formidable.
C'était évidemment impeccable.
Oui. Ah oui, tout à fait. Oui. Et puis même, vous avez raison. Sa vie perso, parce qu'évidemment, quand on lit 14 heures par jour, bon, il lisait 14 heures par jour au moment de l'apostrophe. Mais c'est vrai que ça nous dit aussi une époque, c'est-à-dire qu'il fait une heure d'émission de télévision par semaine. On lui permet, c'est-à-dire que la chaîne permet quand même qu'il ne travaille, qu'il ne fasse qu'une heure par semaine. Donc il doit lire.
Il recevait 5 à 6 invités par émission.
Bien sûr.
Donc il fallait lire sans doute une dizaine de livres, donc une dizaine d'auteurs dans la semaine pour en garder la moitié, j'imagine. Donc évidemment, ça prend du temps. Mais en même temps, on lui permettait de faire qu'une seule émission, mais j'imagine qu'il n'y avait pas 50 personnes pour préparer l'émission, puisqu'il lisait tout lui-même.
Il lisait tout lui-même. Il n'avait pas besoin d'avoir un corps
de gens pour lire à sa place. Il écrivait des chroniques.
Pour le JDD, mais après, mais ça dit aussi une période où un journaliste.
Le journal lire.
Voilà, avoir un journaliste littéraire dans une rédaction, c'est forcément quelqu'un qui passe assez peu dans la rédaction.
Comment ça
parce qu'il est
son collaborateur au début de son émission, après il est parti, un certain Gilles.
Lapouge.
Voilà. Gilles Lapouge.
Gilles Lapouge. Gilles Lapouge. C'était au tout début, ça. Oui. Voyez ce qu'il dit sur sa vie perso avec Thierry Ardisson.
Alors on se dit, il pose des questions aux autres pour ne pas avoir à s'en poser, en fait pas du tout. Vous êtes assez sincère, vous parlez de votre réussite professionnelle comme d'un cache-misère de votre vie privée et familiale. Vous avez beaucoup sacrifié à Apostrophe.
Oui, pour faire que cette émission soit la meilleure possible, j'ai lu entre 10 et 14 heures par jour, fatalement au détriment d'une vie de famille qui aurait dû être plus sereine, plus longue, oui, bien sûr. À l'intérieur du livre, oui, Adam Hitch, il se dit, mais il se pose des questions. Parce qu'il y a une chose, une question qu'on ne m'a jamais posée à moi, c'est est-ce que vous vous posez des questions ?
Oui.
Oui, bien sûr que je me pose des questions. Je suis arrivé à un âge, en fait, déjà il y a quelques temps, où d'un seul coup, toutes ces questions qu'on repousse quand on a 30, 40 ans, 50 ans, c'est pas. Mais vous arrivez à l'âge où, justement, comme moi, nous nous posons des questions et cette fois, nous ne pouvons pas les esquiver. Nous devons y répondre. Et nous devons y répondre. Et parfois, les réponses, eh ben, elles font mal.
Ah oui. Et vous dites un truc formidable dans le bouquin, c'est il y a un moment où on ne peut pas passer une journée sans penser à la mort.
Oui, c'est pas. Oui, à partir d'un certain âge, on peut. C'est,
oui, j'y suis, moi.
Oui, on se ressemble beaucoup finalement.
Pensez tous les jours à la mort, Gilles William.
Oui. Oui. C'est une chose que je ne crains pas immensément, mais j'y pense. Oui.
Il y avait aussi quand même chez Pivot le bon vivre. Alors, quand vous parlez du
supporter vin. Supporter de Saint-Étienne.
Voilà.
Aimant le foot, le bord de Bourgogne.
J'avais fait un tweet sur le foot, j'ai regardé son compte Twitter. Je rêve d'un match de foot où il serait interdit de faire une passe au gardien. Et je trouve que ça le résume bien sur le fait de vouloir du mouvement.
Vous n'entendrez pas Jean-Marie Rouard que j'ai eu aujourd'hui, qui est en Corse, qui est très peiné. Et Jean-Marie dit, moi je ne peux pas parler. C'était vraiment son ami intime. C'est vrai que j'espère ne pas trahir de secret en disant que Bernard Pivot a appelé Jean-Marie Rouard il y a moins de 8 jours. Et il lui a dit, c'est la dernière fois que je t'appelle. Voilà. Et il savait que la fin était proche, qu'il était très malade. Ces dernières années ont été dures, bien sûr. Et il est donc, il a 89 ans, hein, 1935, Bernard Pivot et Jean-Marie Rouard, que j'ai eu plusieurs fois aujourd'hui.
D'autre avait fait ça, un ami de Pivot, c'était Bertrand Tavernier. Il avait donné les derniers coups de fil.
Il est mort le lendemain de son anniversaire. Il était né un 5 mai, il est mort le 6 mai. Il venait d'avoir 89 ans. Et je ne crois pas aux présages ni aux astres, mais la même semaine, meurt Bernard Pivot, meurt Paul Auster, qui est un immense écrivain américain, meurt un éditeur français que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Léo Cher.
Ah oui, et Léo Cher, effectivement.
Trois personnes sont décédées à quelques jours d'intervalle. Et ça m'a, ce matin, quand j'ai appris la mort de Bernard Pivot, en début d'après-midi, ça m'a fait réfléchir. Voilà.
On va marquer une pause, mais c'est vrai que Léo Cher est un des éditeurs les plus élégants qui existe en France, qui avait édité notamment Claude Berry, un livre absolument formidable, Autoportrait. Et nous pensons évidemment ce soir beaucoup à Nathalie Reims, qui nous écoute régulièrement et qu'on salue tendrement. La pause, et nous revenons dans une seconde. Vous pouvez aller sur le compte de Bernard Pivot, sur son compte, et revoir tous ses tweets. On en parlera tout à l'heure. Il était venu sur ce plateau un soir. On était avec Dominique Grimaud. On écoutera tout à l'heure une ou deux séquences, si vous le voulez bien. Mais l'actualité, c'est évidemment le Hamas qui accepte ou accepterait une trêve. Le Hamas dit avoir approuvé la proposition de cesser le feu présentée par l'Égypte et le Qatar en vue d'une trêve avec Israël. Et selon un responsable israélien, Israël réfléchit et examine cette possibilité d'accepter une trêve. Cette annonce intervient alors que l'armée israélienne a lancé aujourd'hui une opération visant à faire évacuer des dizaines de milliers de familles dans la ville de Rafah, où s'entassent 1 million de Palestiniens déplacés pour la plupart, selon l'ONU. C'est une déclaration à l'AFP d'un responsable du Hamas. La balle est désormais dans le camp d'Israël, qui a le choix entre accepter l'accord de cesser le feu, soit y faire obstacle, a ensuite déclaré à l'AFP un responsable du Hamas sous le couvert de l'anonymat. J'ai William Goldnadel.
Je crois qu'il faut être circonspect. Si la proposition du Hamas, qui est faite à la suite notamment de la pression israélienne forte sur Rafah depuis hier, correspond exactement à ce que Israël avait proposé, ce serait une excellente nouvelle pour tout le monde, et notamment pour les otages, dont les commentateurs français se préoccupent médiocrement. L'autre hypothèse que malheureusement beaucoup d'Israéliens caressent, c'est que le Hamas ne répondrait pas véritablement à la proposition qui a été faite par Israël et donc voudrait mettre la responsabilité du refus dans le camp israélien. Donc au moment où nous parlons, attendons un peu pour nous réjouir.
En tout cas, ce serait à la fois une bonne nouvelle pour les otages.
Et aussi, si tant est que ces otages soient vivants.
Sûr, on n'en connaît pas là. Situation exacte et une bonne nouvelle pour les 1,4 million de civils palestiniens qui sont donc aujourd'hui à Rafah, qui sont donc bloqués, qui n'ont pas de possibilité de sortir de l'enclave et qui ont vécu 7 mois de bombardement. Ce serait une bonne nouvelle pour les otages et les civils palestiniens.
Comme le disait Gilles William, il faut être deux pour signer une trêve et les signer en les mêmes termes. Deuxième chose, il faut respecter la trêve que l'on s'est soi-disant engagé à signer. Et troisièmement, il ne faut pas, profiter de cette trêve pour se réinstaller ailleurs, construire autre chose.
La proposition du Hamas prévoit 3 phases, me dit-on, dont une dont un objectif serait le cessez-le-feu permanent. Cessez-le-feu permanent.
Je ne pense pas qu'Israël accepte un cessez-le-feu permanent.
Ce dont ne veut pas Netanyahou.
Parce que le cessez-le-feu permanent, ça veut dire de ne pas nettoyer, vous m'excuserez le verbe, Rafah. Or, quand même, c'est un objectif important puisque c'est la pointe sud de Gaza qui recèle encore sans doute des tunnels, des combattants et voir les cadres, le chef du Hamas. Bon.
On va être circonspect et je pense que c'est vous qui avez raison. Dans l'actualité du jour, c'est une image qui va fortement être commentée. Monsieur Xi Jinping est à Paris. Comme vous le savez, bon, il est reçu par Emmanuel Macron. Et cette image est forte puisqu'elle est symbolique. Monsieur Macron ne reçoit pas tout seul Xi Jinping. Il y a Madame von der Leyen qui est là. Alors vous imaginez le général de Gaulle recevoir Mao avec un responsable européen ? Moi je suis étonné, je suis même étonné que Emmanuel Macron fasse ça parce que on commentera peut-être plus la présence de Madame von der Leyen que son échange avec Xi Jinping.
L'étonnement m'étonne.
Il est hyper cohérent.
C'est pas la première fois d'ailleurs.
Il est d'une cohérence parfaite.
Il a émis l'idée la semaine dernière que l'arme nucléaire ne soit plus seulement française, mais qu'elle soit partagée avec d'autres pays européens.
Et Madame von der Leyen est élue par personne.
Pascal, moi je suis d'accord avec vous.
Je veux dire, c'est juste, elle est, je pense, c'est un repoussoir.
Et Xi Jinping non plus.
Oui, c'est assez bien vu.
Excuse-moi,
mais sauf que Monsieur Xi Jinping, Xi Jinping ne déçoit pas Xi Jinping,
si vous voulez, au moins.
Ok. Si. Il y a un dîner d'État ce soir. Vous n'êtes pas invité d'ailleurs.
Non plus. Après ce que je viens de dire, c'est fini. Je viens de déchirer mon carton.
Sauf que ce dirigeant chinois ne dirige pas notre avenir ici en Europe, alors que Madame von der Leyen.
Oui, mais non, mais Emmanuel Macron,
non, mais n'ironisons pas. Oui. Madame von der Leyen, elle est élue par personne. C'est un repoussoir pour beaucoup
mais
de gens.
Emmanuel Macron est dans sa cohérence.
Je fais juste une parenthèse. D'abord, j'ai appris que Pascal Canfin était sur la liste de Renaissance. Il voudrait se suicider. Il voudrait se suicider, Renaissance, qui ne ferait pas autrement. Mais je ferme la parenthèse.
Ça prouve la place de Canfin sur la liste.
Exactement. Ça prouve
que ce qui s'est passé au moment de la crise des agriculteurs était en fait une opération de diversion.
Bien sûr, vous avez parfaitement raison.
Mais pour revenir sur la question de von der Leyen, je suis désolé. En fait, Médéon, on l'a dit ici il y a quelques temps, c'est le seul sujet où on peut voir une cohérence absolue dans les déclarations.
Mais les Français ne veulent pas de ça.
Je suis d'accord avec vous.
Il va être en difficulté aux élections européennes.
Si Emmanuel Macron a une cohérence, sauf que lui, il n'est plus candidat à rien, en fait. Sauf peut-être à une deuxième vie de dirigeant européen. Ça peut peut-être expliquer quelque chose. Mais la seule cohérence sur le fond, en toutes circonstances d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est candidat à la présidentielle en 2016, c'est sur la question européenne, le pas en avant.
C'est pas seulement la cohérence. C'est la sincérité. C'est le seul domaine où il a une vraie conviction, une vraie sincérité qu'il assume. Donc, ne vous étonnez pas.
Pardonnez-moi, mais il y a aussi l'incarnation. On parlait d'incarnation avec Bernard Pivot. Vous trouvez que Mme von der Leyen, il y a une incarnation qui est intéressante pour cette espèce de mépris, de distance, d'arrogance, de fatuité.
Il y a une cohérence dans le
Macron. Elle ressemble alors.
Les arbitrages politiques concernant la liste ont été rendus par Emmanuel Macron.
Voilà.
Quand on fait en quatre, c'est Emmanuel Macron. Ça s'est décidé au château. Deux, ils viennent de sortir le programme aujourd'hui. Le thème, c'est l'Europe peut mourir. Elle peut mourir d'ailleurs parce que Madame von der Leyen est à la table. Et donc, ils ont la responsabilité de cette situation-là. Bon, vous avez dégrisé concernant le macronisme.
On parle de monsieur
les toutes dernières
années.
Monsieur
le chinois aussi. On parle
monsieur de chinois, vous l'appelez, c'est bien. Il s'appelle Xi Jinping.
Ce que je veux dire, c'est
dire Xi.
Oui, vous le dites comme vous voulez, mais. Un milliard deux, hein.
Un milliard quatre.
Oui. Un milliard quatre. Comment voulez-vous diriger un pays en n'étant pas un peu ferme quand il y a un milliard quatre?
Voilà, vous venez de justifier la.
Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais.
Courageux de votre part.
Non, mais comment voulez-vous diriger un pays?
Ce que je voudrais dire,
j'ai dit fermeté, j'ai pas dit autre chose.
L'Inde est la plus grande démocratie du monde, ils ont plus d'habitants.
Un milliard quatre.
L'Inde a plus d'habitants que la Chine.
Je veux dire.
Non, mais la raison, ça doit être.
À ce stade de notre conversation agréable, je m'étonne quand même que les étudiants de Sciences Po. Ne trouve pas le moyen de dire un tout petit mot pour les Ouïghours et pour les Tibétains. Oui, c'est important, hein, là, je veux pas. Mais bon, c'est.
Alors, voilà, ceci dit.
Pas un mot.
La tête de liste Renaissance a dit un petit mot sur les Ouïghours.
Oui.
Je ne sais pas si c'est le plus malin le jour du dîner d'État. Mais bon.
C'est un dîner d'État. Personne.
Qui a dit ça qui...
Valérie.
Et demain,
demain, ils sont à la Mongie. Je vous dire que la Mongie est quasiment fermée depuis 8 jours. Je ne sais pas ce que le président chinois va faire à la Mongie, si, parce que Emmanuel Macron.
Il avait reçu à Canton.
Sa maison natale.
Voilà.
Le canton.
Donc voilà. Son père était le gouverneur de la province. Les Chinois sont très sensibles au fait qu'à un moment donné, il puisse y avoir un moment personnel. Presque affectif.
C'est d'une parfaite réciprocité.
Il l'invite donc chez Mamette, chez sa grand-mère, et chez son copain qui tient le.
Quand vous serez élu président,
le restaurant
vous
recevrez
un interlocuteur à Nantes.
Non,
vous avez grandi ou à la Baule.
Pas ces gestes.
À Bretignolles-sur-Mer.
À Bretignolles-sur-Mer, ils vont pas te faire chier.
Faites quelque chose. Non, à ce stade-là. Ça, c'est le mépris parisien. J'ai connu ça à Rouen. C'est le mépris parisien. Cherchez pas.
Vous êtes tombé sur.
Je vais pas dire ce que j'ai dit.
Ouais, c'est trop tard.
D'abord,
la blessure.
Non, mais
pour faire un bon mot, je serais prêt à tout.
Non, mais vous êtes tombé. D'abord, Bretignolles-sur-Mer.
Je m'excuse auprès des habitants de Bretignolles.
Mais oui,
non, le mal est fait.
D'abord, vous devriez sortir. Bretignolles-sur-Mer, et c'est absolument formidable. Oui, c'est la Vendée.
Oui.
Fait un temps toujours
comment
magnifique.
Comment on appelle les habitants?
Les Bretignolais.
Je peux vous dire qu'ils rigolent pas. Hein. N'allez pas traîner dans ce coin-là.
Chouan en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur vaillant en avant. Chouan.
Vous êtes né à tel génie.
Non, c'est pas. Je suis pas né à Bretignolles, mais bon. Mais peu importe.
Vous êtes né à Nantes.
Mais j'allais là.
Demain, il va y avoir de belles.
Ah, j'allais quand j'étais enfant. Est-ce que vous voulez voir les images de.
Ce stade, on peut pas parler de Montgournet-en-Bray.
Voilà, image sinon historique, du moins symbolique, entre le président chinois et Emmanuel Macron, et les deux épouses, Madame Macron et donc Madame Xi Jinping, et le président qui
a l'air heureux d'être là, le président chinois.
Pourquoi les tyrans ont toujours l'air débonnaires?
Oh, il n'a pas l'air débonnaire.
Non, mais aussi, il avait une bonne.
Non, mais attendez. Le mot tyran.
C'est pas. Alors là, c'est intéressant.
Non, non, mais. Oui, oui.
Ça va être un.
Oui, oui, oui.
C'est un moment historique. Là, on vit un moment historique. Oui. Monsieur.
Oui, non, mais vous avez. Mais je. Oui. N'entrons pas dans cette.
On a une obligation diplomatique.
Non.
Je voudrais savoir.
C'est un tyran. Vous aurez étayé, évidemment, ce que vous dites, mais vous avez sans doute raison.
On n'a pas encore fait le procès du communisme.
Vous avez
il arrivera un jour, on le fera peut-être le procès du communisme.
Non, mais vous avez sans doute raison.
Eh oui.
On devait, Mme Macron, a imposé que le dessert soit une tarte à la myrtille.
C'est il faut reconnaître que c'est un bel enseignement. Il m'a arrivé mon clou, hein, je peux vous le dire. Hein.
Bon, un mot sur Colombe, parce que vous avez entendu sans doute et vu cette séquence de cette jeune femme, et tout est entré dans l'ordre, puisque cette jeune femme Colombe, qui a 60 ans, et ça, cette jeune femme qui n'a pas de travail, qui était bénévole pour les Restos du Cœur, ça en dit beaucoup d'ailleurs sur notre société. Mais elle a été réintégrée ce soir. Elle a été réintégrée ce soir. Mais oui.
Mais ça n'arrange rien du tout, pardon. Elle est toujours au RSA.
Oui, mais écoutons Colombe sur TF1, parce que ça a été vu par 5 millions de.
C'est sur les réseaux sociaux TF1.
Exactement, sur 5 millions. Ça a été vu sur les réseaux sociaux, 5 millions de vues.
Qu'est-ce qui me fait pleurer? Parce qu'on est arrivé dans un monde de fous et il faut absolument qu'on trouve des solutions. Parce que, regardez, moi je suis au RSA et on a du mal à vivre. On a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire « Allez, suivez-moi et on va combattre ». Ici, on a quand même un taux énorme du RN et on est tous en colère, on a tous du mal. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine, il y a des combats à mener. Hein, que ce soit pour la santé ou que ce soit pour le travail. Je suis conseillère en insertion professionnelle et au jour d'aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue. Je suis responsable de la GAP pour les gens de la rue, à Toreil, à Saint-Assis, à Perpignan. Voilà.
Bon, Marine Le Pen s'est exprimée sur ce sujet.
Je lui dis de tenir bon, on arrive. Voilà ce que je dis à Colombe et à toutes les Colombes de France. Je leur dis que ce qu'ils vivent n'est pas une fatalité, c'est la conséquence de choix politiques qui sont des mauvais choix politiques.
Oui, sauf qu'en fait, en réalité, Marine Le Pen.
Je dis au Resto du Cœur.
C'est tragique quand même dans cette
histoire. Je dis au Resto du Cœur qu'ils devraient avoir honte de leur comportement. Et s'ils sont censés représenter une certaine gauche, eh bien, celle-ci s'est fourvoyée. Parce que pousser à la démission une femme pour avoir simplement exprimé le désarroi qui est celui de millions de Français, alors que sans travail, elle donne de son temps et elle donne de son cœur à ceux qui ont encore moins qu'elle. Eh bien, la pousser à la démission, c'est vraiment une attitude qui devrait évidemment indigner.
Bon, elle a évidemment 100% raison, Madame Le Pen, mais je vous le dis, depuis, les choses ont changé, puisque les Restos du Cœur ont bien compris que ça pouvait être piégeux et ont réintégré cette femme. Mais avant cela, les Restos du Cœur avaient écrit, il a été estimé que Colombe avait contrevenu à cette charte en affichant son appartenance au resto devant une caméra de TF1 à l'issue d'une réunion publique du Rassemblement National et en période électorale pour illustrer son discours sur les combats à mener. Combien d'artistes et de chanteurs ont exprimé au Resto du Cœur leur... choix politique. Il ne faut pas nous prendre évidemment pour des imbéciles.
Là où ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, oui. Du cœur, c'est cette histoire de lettre de démission. C'est-à-dire que leur première communication dans un premier temps, ça a été de dire non, mais c'est elle qui a démissionné, etc. Ouais. Avant qu'on comprenne par son entourage, parce qu'elle s'est assez peu exprimée, qu'on comprenne par son entourage qu'en fait, elle a été poussée à la démission.
Bien sûr.
Ils ont abusé de la faiblesse de cette pauvre.
Mais pour ce monde culturel, artistique, d'ailleurs. Le Rassemblement National, c'est le diable.
Oui, non, mais c'est pour ça, je pense. Là, ils ont compris. Ils ont menti sur sa motivation pour démissionner. Ils ont compris qu'il allait avoir à un moment donné, quelqu'un allait récupérer cette lettre, allait l'interroger, qu'elle allait dire en fait qu'elle ne voulait pas démissionner et que ça allait être très grave pour eux. Et donc, ils l'ont réintégré pour cette raison, je pense.
C'est pas que uniquement le Rassemblement National soit le diable. C'est que c'est la fausse générosité. Ils n'ont pas de cœur. La réalité, elle est là.
Non, alors certains, ne généralisez pas. Trop, parce que je connais un peu l'organisation des Restos du Cœur. Je n'ai pas terminé ma phrase.
Oui, mais vous m'avez interrompu vous-même.
Ah ben non, vous avez terminé votre phrase.
J'avais soupiré, je dis, en tous les cas, les gens qui ont pris cette décision.
Ah oui, mais ça c'est une dame locale.
Ah bon ?
Mais oui.
Voilà, et c'est une dame locale qui a voulu faire du zèle. D'accord. Mais dans les artistes, il y a des gens très engagés. Oui. Je connais bien Christian Jean-Pierre qui a travaillé à TF1 longtemps et qui souvent m'a rapporté l'engagement de certains chanteurs, certains artistes.
La générosité du milieu artistique ne m'a jamais sauté aux yeux.
Mais là, on n'est pas sur le milieu artistique.
Bon. Oui. Jérôme Fourquet.
Voire
une faute.
Une faute que de dire cette femme se plaint et elle n'est pas du bon côté, donc je la sors.
Bien sûr.
Écoutez, Jérôme Fourquet.
Je crois que les Restos du Cœur manquaient de bénévoles. Ils en manquent si peu qu'ils peuvent la pousser dehors.
Mais le Rassemblement national, c'est le diable pour tous ces gens-là.
J'essaie de trouver des raisons.
Bon, bah si, la preuve. Alors, écoutons Jérôme Fourquet. Écoutons Jérôme Fourquet parce que ce qu'il a dit est très intéressant.
C'est pas un hasard si cette vidéo a été visionnée 5 millions de fois. D'abord parce qu'elle est émouvante, mais aussi parce qu'elle raconte une partie de la réalité sociale et politique de ce pays. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Eh bien, que toute une partie de l'électorat populaire, jadis, qui votait traditionnellement plutôt à gauche, est passée aujourd'hui, avec armes et bagages, du côté du Rassemblement national.
Le communiqué du Resto du Cœur, je vous avais lu la première partie et je voulais maintenant vous lire la deuxième partie à ce moment de l'émission. Aucune procédure d'exclusion n'a été engagée. Néanmoins, face à ce désaccord, Colombe s'est sentie poussée à démissionner. Les Restos du Cœur regrettent qu'un simple rappel à la règle ait pris de telles propositions. Pour apaiser la situation, les Restos du Cœur des Pyrénées-Orientales ont entendu le désarroi de Colombe, son appel d'aujourd'hui, et ont accepté de la réintégrer au sein des équipes du département dès lors qu'elle confirme son adhésion à notre charte. Les restos restent attachés à leur indépendance. Tu parles.
Donc, elle avait des
le nombre. Vous voulez que je vous cite ? Par charité chrétienne, je ne citerai pas les artistes que j'ai listés cet après-midi qui ont montré leur engagement politique et qui ont dit pour qui ils votaient. Alors, personne n'a voté, évidemment, pour Marine Le Pen. Ça, c'est sûr.
Moi qui n'ai pas cette charité chrétienne, vous pouvez me passer la liste pour que je la lise ?
Non. Non, je ne lis pas parce que aujourd'hui, c'est un jour différent. Un mot sur Naël, il nous reste une douzaine de minutes, on parlera, c'est promis, de Bernard Pivot, on reviendra sur Bernard Pivot, on a encore quelques séquences à vous montrer, mais Naël, la reconstitution de mort du jeune homme tué par un tir policier à Nanterre, c'était passionnant, j'étais avec monsieur Liénard ce matin, le policier, il ne varie pas, il dit j'étais obligé de faire ce que j'ai fait hélas, parce qu'autrement je mettais en danger des gens qui étaient à 20 mètres de la voiture, 30 mètres de la voiture. Voilà, il ne varie pas sa position. C'est un drame absolu. Un jeune homme est mort. Mais le policier ne varie pas. Donc, il se peut qu'il y ait non-lieu.
C'est comme les gendarmes de l'affaire Traoré.
C'est possible. Hein. C'est possible qu'il y ait non-lieu, qu'il n'y ait jamais de procès. Oui. Mais vous imaginez l'opinion publique.
Comme les gendarmes de l'affaire Traoré.
Exactement. Ça va être pareil.
À chaque fois que les indigénistes, les familles Traoré, etc., se choisissent une cause, à chaque fois, c'est pas de chance. En fait, la police ou les gendarmes n'ont rien à se reprocher.
Faut attendre, l'instruction est en cours. Mais voyons le sujet.
Ça fait longtemps qu'il le dit.
Voyons le sujet de Mathieu Devez.
Au lendemain de la reconstitution des faits, les versions continuent de s'opposer. L'avocat de la mère de Naël, maître Nabil Boudi, assure que le policier auteur du tir mortel n'était pas en danger.
C'est au policier qui a ouvert le feu sur un individu qui n'était pas armé, qui était à l'arrêt, qui était en train de coopérer, hein, conformément à ce que racontent les témoins. C'est à ce policier-là de nous expliquer pourquoi il a utilisé son arme à feu.
Mais pour la défense, représentée par maître Laurent-Franck Liénard, le policier a respecté les consignes encadrant l'usage de son arme.
Il est persuadé qu'il n'avait pas d'autre choix. Il est droit dans ses bottes, il sait ce qu'il a fait, il sait pourquoi il l'a fait. Et la reconstitution n'a pas permis du tout de mettre en exergue une quelconque faute, un quelconque défaut de perception de la réalité. Mon client, il a perçu un danger.
Un danger loin d'être imminent, selon l'avocat de la mère de Naël.
Il est uniquement hypothétique et dès lors, on ne peut pas utiliser une arme à bout portant, une arme létale sur un individu de 17 ans, sur la base d'une hypothèse.
L'avocat du policier assure pourtant que la voiture conduite par Naël a failli percuter plusieurs personnes quelques secondes avant l'intervention des policiers.
Elle manque d'écraser une maman avec des enfants et elle manque d'écraser un cycliste. Mais vraiment, le cycliste, les deux motards disent tous les deux la même chose. On a fermé les yeux parce qu'on a vu la percussion. On a vu qu'il allait le tuer. Et c'est passé par miracle.
Il dit espérer un non-lieu pour son client, mis en examen pour homicide volontaire.
Donc, bonne chance au juge, parce que évaluer le danger de ce jeune homme qui allait repartir avec... pourquoi pas à 20 mètres, 30 mètres, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Beaucoup de personnes. Donc le policier a imaginé que si cette voiture part, elle peut tuer.
Vous précisez qu'on est à Nanterre à 8h du matin. Donc il y a
beaucoup de monde
en voiture.
Beaucoup de monde.
Une chose est certaine, on n'est pas dans la... il n'a pas tué pour le plaisir. On n'est pas dans la circonstance d'un homicide volontaire. Le débat est de savoir si, s'il a eu raison, de son point de vue, de tirer pour sauver des vies, ou s'il y a eu l'arme un peu trop facile. Mais qu'il ait fait pour cela de la prison pour apaiser, en vérité, des gens encolérés, je trouve ça toujours aujourd'hui aussi scandaleux.
Benjamin, vous l'avez compris, l'actualité évolue sur Rafah et sur la bande de Gaza. Et manifestement, je ne sais pas si on a des images ou pas, mais il y a des bombardements intenses en ce moment qui se produisent à Rafah. C'est en tout cas ce que me disait...
Ça n'invite pas le problème, je veux dire, c'est...
Ça avait été annoncé.
Ça n'empêche pas la possibilité d'un éventuel...
Ça avait été annoncé. Hein.
Oui. Bernard Pivot, qui nous a quittés aujourd'hui, et il était venu sur le plateau de l'heure des pros en 2017. Il y avait ce jour-là Christophe Onodibio qui était présent. Il y avait Dominique Grimaud également. Et puis, je crois que j'avais posé des questions, les questions du questionnaire de Proust d'une certaine manière. Quel est le livre que vous avez le plus lu dans votre vie ?
Le Petit Larousse.
Là, vous trichez. Non. Vous voyez, vous trichez.
Mais il n'aime pas choisir.
Mais oui, mais vous êtes masqué.
Mais non, mais pas du tout, parce que
vous avancez. Là, vous êtes
roman. Non, parce que je l'ai raconté. J'ai raconté que quand pendant la guerre, j'avais entre 5 et 10 ans, j'étais dans un petit village du Beaujolais, le Quincy Beaujolais,
exactement,
à côté de Brouilly. Eh bien, j'avais deux livres à ma disposition. On n'avait pas de livres. J'avais une vieille édition du Petit Larousse et les Fables de La Fontaine. Et le seul livre que j'ai lu, on peut dire de 7 à 10 ans, pendant 3 ans, c'est le Petit Larousse. J'ai lu, je notais des mots, je les apprenais par cœur, etc. Mon goût des mots vient de là. C'est mon goût des mots. Le premier roman que j'ai lu, la première bande dessinée que j'ai lue, je devais avoir 11 ou 12 ans. C'est très, très tard. Parce qu'on n'avait pas, de livres. Où les trouver ?
C'était il y a 7 ans. Et puis, il était fan de Saint-Étienne. D'ailleurs, il y a un tweet de l'AS Saint-Étienne. Il aimait les mots, il aimait les vers. Bernard Pivot s'est éteint. L'AS Saint-Étienne salue cet homme de lettres, né de l'autre côté de la frontière ligérienne, mais entraîné, comme bien d'autres, par la passion stéphanoise. Il était né à Lyon. Hein. C'est pour ça. Assez proche, nous présentons nos sincères condoléances. Il est lié, effectivement. Les vers étaient en finale de Coupe d'Europe en 1976.
C'est Roger Rocher, là.
Mais bien sûr, c'est Roger Rocher, bien sûr.
Laurent Gérard, j'ai l'impression.
Ah non, c'est pas Laurent Gérard. Laurent Gérard, il n'était pas né en 76 où il avait 8 ans. C'est Laurent Gérard.
C'est monsieur, mais ça.
Laurent Gérard, t'arrêtes.
Il est en 76. Laurent Gérard, il a 8 ans ou 9 ans. Oui, c'est Roger Rocher. Saint-Étienne. Écoutons-le sur Saint-Étienne, ce qu'il disait Bernard Pivot.
Je crois que vous ne le cachez pas, vous êtes un supporter.
Non, déclaré, convaincu, déclaré. Permanent.
Vous étiez samedi dans les vestiaires, là, je suis sûr.
Ah non, mais d'abord dans la tribune, où j'ai d'ailleurs vu, comme mes deux autres confrères ici présents, un excellent match de football, ouais, ce qui nous a réjouis. Et un match équitable, un résultat équitable. Et oui, puis ensuite, comme d'habitude, je vais saluer les joueurs, mais je suis allé saluer les joueurs des deux équipes.
Ah oui, vous êtes fair-play quand même. Oui.
Enfin, vous ne cachez pas votre amour pour les Verts, Bernard, quand même.
Non, pas du tout. Ouais. Non, mais ce je ne cache surtout pas, c'est mon amour pour le football.
D'abord. C'est vrai.
Alors, c'est intéressant d'aimer une équipe, d'aimer deux ou trois équipes par rapport à d'autres, parce que ça donne du piquant au match que l'on voit.
Mais d'abord, le supporter de football, c'est le ballon qui roule, c'est le ballon qui frôle la barre transversale, qui le fait se soulever de son siège.
Ah oui, si on ne soulève pas de son siège en regardant un match, c'est qu'on ne doit pas être très mordu.
Si le match est insipide, ça peut arriver, mais c'est rare.
Et surtout, l'extraordinaire sensualité du ballon quand il touche le filet.
Ah, il y a un bruit, un chuintement.
Quelque chose. Quand on a joué, évidemment, on a la chance de marquer un but, c'est encore une sensation encore plus grande. J'ai beaucoup joué quand j'étais enfant, sans être, hélas, un joueur bien doué, mais j'étais un joueur obstiné, têtu et gagneur.
À quel poste ?
Je jouais inter, on appelle ça.
C'est un milieu de terrain.
C'est un milieu de terrain.
C'est Platini. C'était Platini à son époque.
Hélas, non.
Bon, vous avez reconnu évidemment Anne Sinclair, vous avez reconnu Michel Denisot, et vous savez, ne savez pas quel est l'homme
qui... Non, entre nous, on se questionne.
Ben, c'était Philippe Tournon, qui a été longtemps le chef de presse de la Fédération française de football, Philippe Tournon, et qui était à l'époque, je pense, à l'Équipe, qui était chef de la rubrique football à l'Équipe, qui était un des grands rédacteurs en chef du journal L'Équipe.
On est en quelle année, là ?
82. Donc, salue. L'enfance et le rapport aux femmes, parce que c'est aussi, chez Pivot, un homme qui parle d'une certaine époque. Et la vraie frontière, c'est pas les gens qui sont nés avant 68 ou pas. La vraie frontière, c'est les gens qui sont nés avant-guerre et après-guerre. C'est pas les mêmes. Les gens qui sont nés en 46-47, c'est pas les mêmes que ceux qui sont nés en 35. Et Bernard Pivot, il est né en 35. C'est un enfant de la guerre. Et ça change tout. Écoutez.
Pas mal, hein.
Mais j'appartiens à la dernière génération qui avait dans la sensualité, ne pouvait pas s'exprimer. On nous cachait tout, y compris même aujourd'hui les jeunes gens voient des seins, aujourd'hui même dans la publicité, au journal de 20h. À cette époque, moi, après la guerre, donc je suis dans 35, 45, 50, c'est une époque où on vous cache tout, couvrez ce sein que je ne saurais voir. La société est tartuffe. Et donc nous, garçons, nous essayons d'en savoir un peu plus sur ces mystères qui nous dépassent, mais dans lesquels nous allons bientôt entrer. Et donc, nous sommes obsédés, effectivement, pas moi, mais tout le lycée, toute la jeunesse, tous les garçons sont obsédés par les jeunes femmes dont nous voyons...
Voir comment c'est fait, quoi.
Il avait 58 ans, c'était en 93, et c'était une émission de Michel Denisot qui s'appelait « Mon Zénith à moi », qui était une émission très intéressante, parce que c'est un tête-à-tête pendant une heure avec une personnalité. Pivot qui lisait 300 à 400 pages par jour. Nous sommes en 1987. Écoutez.
Je lis toujours entre 300 et 400 pages par jour. Voilà. Mais tout dépend de la nature du livre. On ne lit pas un livre de philosophie à la même vitesse qu'un roman policier, bien entendu. Mm-hmm. On lit plus facilement un livre d'histoire anecdotique plutôt qu'un essai, un essai de sociologie. Donc,
mais vous parvenez à changer d'univers très facilement.
Oui, c'est tout l'intérêt de ce métier. Ouais. C'est que d'un seul coup, on passe d'un livre d'histoire facile à un ouvrage très sérieux et un peu compliqué. Mm-hmm. C'est ça. Et on peut même parfois, dans la même journée, j'équilibre ma semaine. J'essaye de ne pas avoir deux lectures difficiles ou deux lectures faciles à la suite. Mmh. Il faut varier les plaisirs et les difficultés.
Il était interrogé par notre confrère Philippe Risoli. Bah, écoutez, voilà ce que nous pouvions dire ce soir de cette triste nouvelle et saluer ses filles.
Hein. Aline et...
Qui était venue d'ailleurs sur un plateau de télévision avec nous et puis a honoré sa mémoire. Comment est-ce qu'on peut honorer sa mémoire? Comment est-ce qu'on peut lui rendre... hommage finalement.
Acheter un livre demain et le lire.
Eh ben, exactement. Bien évidemment. Eh bien, et à vous abonner à Service littéraire. Service littéraire de l'ami François Cereza, que je présente chaque mois. C'est le début du mois de mai. Il y a un excellent papier, comme toujours, sur François Bayrou, avec un édito vitriol de François Cereza, comme seul lui sait les faire. Mais vraiment, il est formidable. Il y a un long papier sur Marcel et Aimé, qui, je ne sais pas si vous lisez Marcel et Aimé.
Un génie.
Vous avez lu C'est formidable, Marcel et Aimé. Dans sa 35e année, le nain du cirque Bardaboum décida de grandir. Donc c'est le début d'une nouvelle. C'est ça, Marcel Aimé. Bon, il y a Philippe Muret par Olivier Bardol, journal d'un extra lucide, et c'est vraiment là aussi formidable. Donc vous retrouverez notamment notre ami Morlino qui écrit chaque fois dans ce journal. Donc je vous le dis vraiment, c'est un journal différent qui reçoit tous les auteurs et qui est
c'est
loin.
C'est un peu les héritiers en fait, quand même. De cette culture, justement, de parler de la littérature, de ne pas avoir ce...
Exactement. Non, mais vous avez raison.
Cereza Morlino devrait faire une émission littéraire.
Exactement. Vous avez parfaitement raison. Marcel Aimé, la chanson du mal aimé. Non, c'est vraiment à lire. Et abonnez-vous, Service littéraire. Merci à tous d'avoir rendu hommage à Bernard Pivot et notre ami Ben Kemoun ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Pro.
On va prolonger l'actualité.
Oui, on va parler beaucoup de ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Le Hamas, vous le savez peut-être, a dit son accord pour un texte de trêve. Est-ce que c'est exactement la trêve qui a été proposée par Israël? Il y a quelques doutes là-dessus, mais on va en parler dans un instant. Et puis, on parlera aussi, parce qu'il y a le dîner du CRIF ce soir, de l'état de l'antisémitisme en France, évidemment, en s'appuyant sur ce sondage qui est paru Hier, dans le Parisien, il y a beaucoup de choses à dire. Également, les assises de la lutte contre l'antisémitisme qui ont été lancées aujourd'hui par Aurore Berger. Voilà le programme.
Merci. Et on va se quitter avec cette musique.
Rachmaninov.
Historique.
Rachmaninov.
Le concerto, je crois, numéro...
Je ne sais pas.
Ça, je ne peux pas vous dire. Cette musique qui a bercé notre jeunesse, en tout cas la mienne. Et vous étiez déjà dans l'âge mûr, cher Gilles William.
Je
ne savais pas encore lire.
Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Yanis Capra, que je salue, bienvenue. Yanis était à la vision. Guillaume Marceau était au son. Benjamin No, Lucas Busutil, Guilhem Lafage. Dans une seconde, Claude Jean-Philippe pour le Ciné-Club. Et nous verrons ce soir...
Les chances du comte Zaroff.
Exactement. Hein? Et puis après, vous savez, il y avait des petits bonhommes là, de France, d'Antenne 2 à l'époque. De qui les avait fait ces fameux...
Folon.
Et alors, on voulait... Ça fait assez... Parce que nos enfants ne peuvent pas comprendre, mais il n'y avait pas de la télé tout le temps. Il n'y avait pas de la télé 24h sur 24 à 23h30. Ça s'arrêtait. Donc voilà. Eh bien, nous allons aller nous coucher aussi. Mais d'abord, évidemment, Olivier Benkemoun. Bonne soirée à tous, 21h01. À demain.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.